Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Notre média revendique une indépendance totale. C'est pour ça que vous nous aimez et que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram, Facebook et toutes nos plateformes d'écoute habituelles. Mais pour continuer à exister, continuer à diffuser des témoignages, des conseils d'experts et d'organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre notre podcast à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter notre média gratuitement et nous sommes sûrs que vous nous comprenez. Tout de suite, un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les jours et les heures ont peu d'importance. Les gens n'ont plus finalement. En fait, plus rien n'a d'importance. Alors, au beau milieu de n'importe quelle journée, je commence à boire. Peu importe la couleur, puisque tout finit en trou noir, le blackout, le fameux. À quoi bon se souvenir de toutes les soirées, puisqu'elles sont toujours les mêmes? On dira des choses exceptionnelles, on aimera les gens beaucoup, tellement, à ne plus pouvoir les quitter jusqu'au matin. On rira, créera, on fera écouter des morceaux à nous, on parlera de soi, on montrera des photos de nos enfants. On aimera encore les gens, parfois de trop près. On serrera les dents, on ouvrira des bouteilles, on chantera, on pleurera, on dira des vérités. On verra l'heure passer en promettant que c'est la dernière ligne, après je rentre. On parlera encore de soi, en n'écoutant pas les autres. On oubliera de regarder l'heure, on fera de bons mots, on les notera pour ne pas les oublier. On fera de mauvais choix, on ne les notera pas pour les oublier. Je ne peux plus me passer de la cocaïne.
Bonjour Rose.
Bonjour Ariel.
Merci de participer aux Déviations. Vous êtes chanteuse, parolière. Le grand public vous a découvert en 2006 avec un tube, La Liste, qui était le titre éponyme de votre premier album. Vous avez depuis enchaîné avec trois disques qui ont connu plus ou moins de succès. Les Souvenirs sous ma frange en 2009 et puis Juin en 2013, Pink Lady en 2015. Vous n'avez, selon cette expression que personnellement je déteste, rien lâché. Et vous revenez aujourd'hui avec un livre et un disque qui, entre la nostalgie d'Abba et les compos à la Michel Berger, font parler de vous. Un livre et un disque qui signent aussi, vous allez nous en parler, les débuts d'une nouvelle vie. Cet album s'appelle Kérosène, l'anagramme de Keren, votre vrai prénom, et de Rose, votre nom de scène. Kérosène aussi comme un carburant qui vous a longtemps fait tenir, le carburant de la drogue et des excès. Je vous pose ma première question, Rose, maintenant que vous êtes, entre guillemets, « clean », que vous avez, semble-t-il, tout arrêté, y a-t-il un avant et un après ?
J'aime bien le semble-t-il. Je sens que tu ne crois pas forcément à cette sobriété.
Je ne sais pas comment y croire.
Mais moi-même, j'ai du mal à y croire. Déjà, j'ai du mal à croire que ça fait tant de temps, en fait, à chaque fois que je vois passer ce 11 quelque chose, le 11 octobre, le 11 novembre. Je vois des mois qui s'ajoutent à cette sobriété.
Puis si vous avez arrêté un 11.
Un 11 octobre, ouais, 2017. Et ce n'est pas pour compter comme si quelque part on allait reprendre un jour. C'est vraiment une fierté de se dire un mois de plus sans cet enfer.
Donc là, vous venez de fêter vos 2 ans.
2 ans et 1 mois, ouais.
Okay,
et 2 mois.
Vous avez fait un rituel particulier ou...
Bah, je me suis bourré la gueule, comme d'hab. Non, pas du tout. J'ai une amie qui a un rituel particulier qui me confectionne des jetons de bois. Un petit peu comme les alcooliques anonymes. À chaque fois, j'oublie, elle me le donne et ça me rend fière. C'est vraiment, ouais, c'est cette sensation de s'éloigner petit à petit de l'enfer et de le sentir tellement proche toujours. Parce qu'en effet, quelque part, on n'a jamais l'impression d'être sobre totalement puisqu'il y a ce risque. C'est cette fameuse seconde où tout peut basculer. Il suffit d'un mauvais jour, d'un mauvais choix, d'un texto, d'un dealer qui revient sans cesse. Ça arrive.
Vous avez changé de numéro de portable ?
Malheureusement pas, et je compte pas le faire, donc c'est ça le truc. Et puis au début, je bloquais les numéros, mais en fait, si tu les bloques tu les as dans ton téléphone et tu peux aller les retrouver toute seule. Donc c'était un très mauvais choix, ça, de bloquer. Non, aujourd'hui, j'en suis plus là à recevoir un numéro et avoir peur, mais on ne sait pas, un concours de circonstances peut faire flancher une seconde. Et si tu flanches une seconde, ça peut être malheureusement le retour de l'enfer.
Vous dites que vous alliez chercher une forme de souffrance pour pouvoir écrire. Il se cache derrière toutes les addictions un principe quasiment identitaire, en fait, qui fait qu'une fois qu'on se défonce, on a un truc à raconter.
Oui, on a un truc à raconter. Et puis finalement, c'est pas que c'est pas bien ce qu'on a écrit, forcément. Mais ça reste du vent, ça s'envole. Le lendemain, on a cette impression quand même que c'est pas vraiment nous. Alors qu'on dit in vino veritas, je sais pas. Disons qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ça c'est sûr, avec la drogue, l'alcool en tout cas. Elle motive. En fait, la différence entre sobre et pas sobre, c'est qu'on a plus souvent envie d'écrire. En tout cas, on écrit. Alors c'est pas forcément bien, mais c'est vrai que si je bois, si je prends de la cocaïne, je vais écrire.
Il y a un principe de désinhibition aussi, quelque chose de...
Soudain, on a l'impression que c'est intéressant ce qu'on va raconter, donc on le raconte. Et ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc aujourd'hui, j'écris moins, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant.
Qu'est-ce que faisaient votre père et votre mère ?
Ils étaient étalagistes, donc décorateurs de magasins, de vitrines à Nice. Mon père, plus tard, est devenu agent immobilier, mais vraiment, je les ai toujours vus aller au boulot, heureux. Je me revois passer dans des magasins de Nice où je les voyais dans la vitrine, en train d'habiller un stockman, et puis en se marrant, et avec une bonne ambiance, une bonne humeur. Ce qui joue beaucoup, c'est d'avoir des parents, entre guillemets, parfaits, mais pas parfaits en tant que parents, forcément, en tant qu'être humain. C'est des gens qui sont heureux de vivre tout le temps, qui font pas semblant. C'est des gens qui se suffisent de ce qu'ils ont, qui ne râlent jamais, j'ai jamais vu ma mère au lit, jamais vu ma mère malade, jamais vu... Et en fait, on a l'impression que nous, avec nos faiblesses, on n'est pas normaux, quoi. Et très tôt, je me suis dit, mais vu que je suis pas comme eux, je suis pas normale. Il y a beaucoup de tabous, n'empêche, hein, parce qu'on n'a jamais parlé de plein de choses. Mais en tout cas, oui, en effet, je pense qu'ils évoquaient pas les problèmes, quoi. Ni la mort, mon grand-père, ma grand-mère... On n'a jamais parlé de choses qui faisaient mal.
Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est qu'en fait, l'alcool et la drogue arrivent très vite dans votre vie, mais comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous prenez votre première cuite à 16 ans. Ou... Ça me frappe parce que vous dites que la première fois, quand vous prenez un train à 22 ans, ce n'est pas important.
En fait, je voulais cocher cette case peut-être, puisque j'étais un peu insouciante, je suis un peu rock'n'roll dans l'âme, et pouvoir dire plus tard, moi j'ai déjà essayé la cocaïne, quoi. Et comme c'était avec un homme que j'aimais, souvent l'alcool et la drogue vient aussi avec l'amour. On consomme, Marguerite Duras disait, on se met à boire parce qu'on est avec un homme qui boit. Moi, la cocaïne, ça a été ça. Et plus tard, quand c'est revenu, ça a été aussi avec quelqu'un qui consommait régulièrement en tournée avec moi et avec qui un lien commençait à se créer, quoi. Et c'est vrai que cette habitude vient avec l'amour. Donc du coup, on a moins cette culpabilité. On a l'impression que ça se mélange à l'amour. Donc que ça reste beau quand même, quoi. Et en fait, donc à 22 ans, moi, j'ai juste essayé. J'ai pas aimé, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'arrêtais pas de dire ça me fait rien. Enfin, j'étais très surprise par le fait qu'on ne sente rien. C'est pas du tout le côté défonce. J'avais peut-être imaginé, comme plein de gens, qu'on prenait un trait et qu'il y avait un côté LSD, on est défoncé. Pas du tout. C'est
non,
juste
en fait, vous êtes juste quelqu'un de romantique.
Mais je pense. Mais en tout cas, non, c'est juste qu'on ne voit plus les heures passer. Et ça, c'est très important, parce que plus tard, quand je vais reprendre la cocaïne, ça va être pour cette raison-là. C'est pour falsifier l'ennui.
Vous dites que vous êtes droguée à la nuit aussi.
Pour falsifier l'ennui aussi. Parce que je suis un peu insomniaque et qu'il y avait énormément de nuits où j'arrivais pas à dormir et qu'en fait, j'avais trouvé finalement une solution pour passer des nuits où on ne tombe pas en rond, on fait des choses et on se marre et on a l'impression qu'on emmagasine des souvenirs énormément, alors qu'au final, tout finit, comme je l'ai lu, en blackout. Moi, j'ai des années entières de blackout.
C'est qu'avant, en fait, votre consommation, c'était la fête.
C'était festif et en tout cas... Le cerveau veut bien croire que c'est festif.
Ouais. Ouais, vous ne voyez pas comme un tremplin vers autre chose de plus dangereux.
Je vois qu'on consomme de plus
vous
en
voyez.
Plus et surtout qu'on ne peut plus passer de soirée sans. Ça, c'est sûr. Mais comme je ne me vois pas chez moi en train de consommer toute seule, je ne me rends pas compte. Mmh. Et puis oui, au quotidien, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait s'apercevoir de ça. Mmh. J'ai très vite abandonné cette idée de famille. Malheureusement, je ne l'ai pas eue. On ne l'a pas vécu longtemps avec le père de mon fils. La séparation en 2015 a précipité la consommation et surtout a alterné des semaines. Justement, la fameuse garde alternée, c'était la garde alternée de ma sobriété, en fait.
Ouais. ça vous préservait en fait d'une certaine manière.
Exactement, il y avait des semaines beaucoup plus calmes et où je prenais des moments de lucidité en fait. Mais ces moments de lucidité sont extrêmement douloureux. Parce qu'on va mieux, on commence à aller mieux, on se rend compte de tout, on se dit c'est fini, j'arrête. Et puis l'autre semaine commence et on est seul. La solitude est un miroir qui nous renvoie vraiment notre image. C'est un miroir extrêmement réaliste. Et c'est ça la difficulté de la solitude, c'est ces moments où on fait des choses seul et qu'on se dit si on me voyait. Voilà, on pense à sa mère, on pense à des gens qui sont morts et peut-être on se dit s'il voit quelque chose là-haut. On pense à son fils, on est seul et en fait on voit tout. On voit tout et là on peut plus se mentir parce que quand on est avec des gens, en fait on se regarde pas quoi.
Avez-vous vu ce film « Mais vous êtes fou » d'Audrey Diwan avec Pio Marmaille et Céline Salette qui parle justement d'être parent et de se droguer, qui lève ce tabou-là?
Moi, il m'a bouleversée ce film. Alors oui, je l'ai vu. Je l'ai vu en plus sans savoir ce que j'allais voir. Parce que moi, je vais voir tous les films avec Pio Marmaille, de base. Donc moi, j'allais voir juste Pio. Ah, il le sait. Il est tout à fait au courant, je suis harceleuse. Non, j'avais une passion pour Pio Marmaille depuis le premier jour du reste de ta vie. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais voir. Et là, carrément, c'était au moment où j'ai arrêté. Donc, la violence, en fait, de la chose, c'est-à-dire me dire que ça aurait pu m'arriver. Enfin, finalement pas, parce qu'en fait, il transmet, on va dire, des résidus de cocaïne par le biais de la transpiration, de la sudation, et parce qu'il cuisine pour ses enfants le soir. Heureusement, je ne cuisine pas. Et là, j'étais ravie. Je ne pense pas avoir touché une quelconque nourriture avec mes mains. Mais ce qui me tue là-dedans, c'est qu'on puisse à ce point caché. Et j'aurais pas pu vivre au quotidien avec quelqu'un, avec un homme qui me voit tous les matins, tous les soirs, sans qu'il le sache. C'est impossible. Et surtout, travailler.
En 2006, vous rencontrez le succès. Et finalement, ce succès-là, il ne vous nourrit pas assez.
Avec le recul, il ne me nourrit pas du tout même. Peut-être même qu'il me déshydrate totalement.
Qu'est-ce que vous vivez à ce moment-là ?
J'ai au début, alors j'ai un petit peu ce sentiment de culpabilité d'avoir volé quelque chose. Vraiment, je sens que j'ai énormément d'amis qui travaillent dans la musique et qui essayent de percer, qui pour moi ont 10 fois plus de talent que moi et en tout cas qui ont beaucoup plus envie que moi.
Donc en fait, vous avez le syndrome de l'imposteur, quoi.
Ouais, dès le début.
Ah oui.
Ouais. Dès le début et puis finalement, j'ai réussi à trouver mon ego d'auteur, compositeur. Rapidement, heureusement, je me suis dit, c'est pas pour rien. C'est pas un miracle. J'ai quand même rapidement compris que la chance, on la crée et que j'ai cette espèce de don pour saisir les chances au bon moment, comme d'ailleurs d'arrêter tout au bon moment aussi avant de mourir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai choisi d'arriver avec cette voix et cette guitare à un moment opportun dans le milieu de la musique où les gens venaient d'écouter Carla Bruni. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, tiens, les gens aiment ça. Je ne me sentais pas si loin de Carla Bruni et je le pense toujours. Et je me suis dit, je vois que le succès qu'elle a pu avoir avec une chanson qui n'a pas forcément de refrain... Très rapidement, je me suis dit, ça va, je ne suis pas là pour rien. Donc au début, ce sentiment d'imposteur...
Et en plus, avec une forme de simplicité aussi.
Oui, exactement, simplicité, puis de vérité. Je voyais que ça touchait les gens, et c'est tout ce qui comptait. Donc le nombre de gens, plus les gens achetaient l'album, plus, oui, ça me confortait, en tout cas, dans le fait que je sache faire ce métier-là.
Ce qui m'étonne énormément dans votre parcours, c'est qu'à un moment, vous prenez le masque de la cocaïne, alors que vous êtes quelqu'un de sincère depuis le début. Et je trouve ça très étrange.
C'est un masque que je n'utilise qu'avec moi-même, hein, parce que déjà énormément de gens autour de moi ne savaient pas que j'en prenais, donc je ne disais pas « je suis comme ça parce que je suis droguée ». En fait, ça me donnait du courage, ça me donnait de la force, ça me donnait l'impression d'être plus forte que ce que je n'étais. Et comme je me sentais faible depuis tout le temps, très faible et toujours prête à vaciller, à sombrer, à être triste... Très proche quand même plus de la neurasthénie à des moments que de la mélancolie. Je sentais que je pouvais être tout le temps heureuse avec la cocaïne et je ne voyais pas le danger du tout. Je ne voyais pas le danger parce que mon métier, en fait, ce qu'on disait avec le film avec Pio Marmaille, c'est que lui, le matin, il se lève, enfin, il a passé des nuits à regarder le plafond, mais il va travailler, il est dentiste. Moi, j'avais la possibilité de rattraper mon sommeil, donc je ne me rendais pas compte de ce que je m'infligeais. Je me disais juste, c'est génial, j'ai le droit de passer une journée au lit. Ces journées au lit, aujourd'hui, je les paye encore. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus violent dans cette dépression-là, c'est ça. C'est cette impression qu'on ne peut rien faire d'autre que de rester au lit. Ça vous donne un sentiment vraiment de faiblesse et d'ego complètement disjoncté, quoi. Moi, je ne pouvais plus me voir en peinture. Rien que de m'imaginer aujourd'hui dans ces journées au lit, j'ai des bouffées de chaleur, Même aujourd'hui, si j'ai rien à faire et de passer une journée au lit, c'est pour moi aujourd'hui compliqué.
Vous faites quoi à la place ?
Non, mais je le fais, mais avec l'homme que j'aime. Je le fais d'une façon différente, où je vais regarder une série que j'aime ou lire. Mais c'est ce genre de journée où on n'a pas le choix que de rester couché avec quelque chose sur les yeux. Enfin, c'est d'une telle violence quand on n'a pas dormi depuis 48 heures. Vous imaginez ?
Souvent, on remarque que les addicts sont des hyperactifs.
Non, pas moi. Du tout. Moi, je suis une hyper feignasse. Non, moi, je pense qu'au contraire, ça m'a aidée à me bouger, à faire des choses, à être motivée pour faire des choses. Je suis toujours étonnée de voir les gens motivés pour la vie sans aucune substance ou sans aucun effort. Moi, aujourd'hui, ça me demande un effort considérable de trouver les choses belles. Et il y a des jours où vraiment c'est magnifique et il y a des jours où, parce que j'ai la chance de vivre quelque chose de très beau. Mais par exemple, quand on vit une journée banale, il y a des gens qui arrivent à voir le beau dans tout ça. Moi, aujourd'hui, je peux le faire, mais en faisant cet effort-là. Parce que oui, je le fais et je le vois finalement, que j'ai de la chance et que cette journée, elle est belle et que mon fils est merveilleux et que j'ai la chance d'être sobre. Mais honnêtement, sans être passée par tout ça, je ne sais pas si je le verrai. Mmh. Aujourd'hui, je sais que c'est une chance, c'est une opportunité énorme que j'ai eue d'avoir vécu tout ça et d'avoir connu la dépression, parce que c'est vraiment un appel profond de l'être qui veut autre chose que tout ce qu'il a eu jusqu'à maintenant, quoi. Je savais que je ne serais jamais heureuse en continuant comme ça. Mais on ne peut pas ne pas le faire. C'est ça une addiction. C'est vraiment, on sait pertinemment que ça fait mal, que ça vous fait mal, qu'il ne faut pas le faire. Sinon, ce serait trop facile. Enfin, c'est pas tous ceux qui sont addicts à quelque chose, à 99% le savent. Hein.
Et vous dites, la drogue m'a rendue forte. D'où vient votre vulnérabilité ?
Je pense que c'est vraiment un désamour de soi. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai pu me dire des choses à moi-même horribles, quoi. Je me vois me dire, je peux pas te voir en peinture, t'es grosse, t'es moche, tu sers à rien, ça sera mieux quand tu seras morte, quoi. À partir d'un moment, ça devient même plus une béquille, puisqu'elle n'aide plus à rien faire. On passe plus la moitié de son temps à faire ça seule. Et donc, on comprend toute seule qu'on n'est plus dans la fête, qu'on n'est plus dans la béquille. On est juste dans une addiction pure et dure. On ne peut plus s'en passer. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit, ça ne peut pas être pire, donc je continue à taper. Ce qui est fabuleux au moment où on arrête, c'est qu'on sait qu'il y a des solutions à trouver autres que tout ça. Parfois, on sait même que cette solution-là, aujourd'hui, si je vais mal, là, je boirai une bouteille de vin. Sur le moment, ça sera une solution extraordinaire parce que j'irai super bien, je vais écrire, ça va me soulager, ça va me faire du bien. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on a compris qu'après la consommation, ça sera pire. Alors qu'on ne veut pas l'admettre avant. Donc, on est dans le déni qu'on empire les choses.
Et à quel moment vous êtes rendu compte que c'était donc plus possible ? Alors, à quel moment vous avez commencé à vraiment prendre en charge ce problème et à vous guérir ?
Alors, ça a été plusieurs choses, donc mis bout à bout, pendant quelques années, de 2015 à 2017, voilà, pendant 2 ans. Évidemment, il y a eu toutes les années avant, mais qui ont servi justement à ancrer cette habitude horrible de se servir de la drogue pour tout. Donc, il n'y a pas eu de déclic à proprement parler, comme si un matin, on se réveille, on se dit « c'est aujourd'hui ». Par exemple, le fait de voir mon fils au milieu d'une soirée. Lui, il n'a rien vu, mais moi, je l'ai vu se lever, je l'ai recouché. Mais j'ai compris que c'était pas... Enfin, il y avait un truc complètement antinomique entre lui, sa gueule d'ange et toute cette...
Mais lui, il s'aperçoit de rien. Jamais.
Il sait très bien que je vais mal. Il me voit pleurer beaucoup, je vais à l'hôpital. Oui. Tout ça, oui, je lui dis que je suis malade, que je vais mal et que je vais me soigner. Mais la drogue, pas du tout. Je pense qu'il a dû voir l'alcool, enfin, plusieurs fois il me dit « toi tu bois plus d'alcool ». Il sait très bien qu'il y avait des verres souvent, que j'étais un peu éméchée, quoi, qu'il y avait beaucoup d'apéros chez moi, beaucoup d'alcool. Il n'y en a plus, donc forcément il voit quand même cette différence-là. Mais donc ce déclic, c'est vraiment mon fils, c'est de tomber amoureuse aussi. Et c'est aussi la santé, je pense que j'étais plus du tout capable
d'assumer.
Non, plus du tout. Et j'ai encaissé longtemps et tout le monde pensait que j'étais un peu warrior en la matière. C'est vrai que je pouvais aller travailler en gueule de bois. La gueule de bois en soi n'était même plus un problème s'il n'y avait pas de drogue. À la limite, c'était... Du moment que j'avais dormi, ça allait. Mais le pire, c'est que voilà, on ne dort plus. On ne dort plus, donc il y a bien un moment où on récupère et on dort 48 heures. Enfin, c'est n'importe quoi.
Et alors là, vous vous dites, je vais voir qui ?
Avant d'arrêter totalement, j'ai eu ces éclats de lucidité en allant voir des gens. Et
donc c'est des addictologues, des psys,
voilà.
C'est qui exactement c'est...
On m'a donné un jour un numéro, quelqu'un qui avait arrêté de la cocaïne depuis un an et qui était très 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 profondément malade et qui avait des consommations que j'ose même pas imaginer. Il était sobre depuis un an et un jour il m'a dit, bah tiens, si jamais voilà, parce qu'il savait que j'avais ce problème-là. Et donc, le 11 octobre mais 2016, donc c'est ça qui est assez drôle, un an avant, un matin, après une nuit encore dans cet état d'esprit et surtout dans cette insomnie totale, je dépose mon fils à l'école. Donc, il faut le savoir, je n'ai pas dormi, il se réveille, je l'amène à l'école. Et là, je comprends le drame.
Vous voyez les autres parents.
Je vois tout, je pense que je sens l'alcool. Enfin, je me dégoûte. Je pense que c'était soit... Je rentrais m'ouvrir les veines, mais c'était concret. Hein. J'imaginais le cul. J'avais tout dans ma tête. Soit j'allais voir, je demandais de l'aide une dernière fois. Et là, je vais à cette à Fernand Vidal, donc section addictologie, rencontrer cette psychologue. Et on commence un travail ensemble à ce moment-là, sauf que ça a été très long. J'ai arrêté 40 jours la cocaïne et puis je voulais pas arrêter de boire en fait. C'était le seul, voilà, c'était ma condition sine qua non. Je lui disais, je veux arrêter la cocaïne, mais je n'arrêterai jamais de boire. Et en fait, elle a été très forte pour ça, c'est qu'elle m'a prouvé lentement que je ne pouvais pas boire. Que c'était en fait à jamais lié à la cocaïne chez moi. En tout cas, peut-être d'autres gens arriveraient tout à fait à séparer les deux. Je buvais un verre d'alcool, je commençais à sentir immédiatement le craving, comme on dit, ce besoin d'être à vide de tout de suite. C'était le stimuli immédiat. Déjà qu'il y a d'autres stimuli dans la vie, hein, c'est-à-dire que les choses qu'on n'a pas envie de faire, des gens qu'on voit avec qui on a déjà pris de la drogue, des situations. Il y a énormément de moments qui font appel dans votre cerveau, dans la seconde même à la cocaïne. Mais alors là, l'alcool, c'était dans la seconde. Et donc, petit à petit, j'ai senti que j'y arrivais pas. On a essayé de limiter. Alors, on a fait un tableau pour boire un verre par jour, deux verres le vendredi soir. Enfin, on a tout essayé jusqu'à ce fameux 10 octobre 2017 où je fais pratiquement un blackout tellement je bois. Et où l'homme que j'aime me dit que lui, il sait plus quoi faire. Et je lui dis, bon, bah, ça y est, j'ai compris. Personne ne m'a cru, évidemment, parce que je l'avais dit tellement de fois. Mais j'ai dit, là, j'ai compris, ça fait un an que j'essaye de ne pas consommer de cocaïne en continuant à boire. Boire, je ne sais pas boire un verre. Voilà. Là, c'était, on va dire, un mini déclic, mais qui a été de longue haleine, quoi. Il a fallu 2 ans de rame. Hein.
Alors, vous avez compris des choses particulières en rencontrant des addictologues. Ils ont un discours assez intéressant, en fait, sur nos mécanismes psychiques. Et aussi, plus généralement, sur la consommation dans la société, c'est-à-dire à quoi elle répond. Qu'est-ce que vous avez appris avec eux ?
Il y a un truc qui m'a vraiment rassurée. Et ça, c'était grâce à elle, cette psychologue, que c'était pas ma faute. Ça enlevait beaucoup le dégoût de soi, parce que, en fait, c'était pas ma faute si je retombais à chaque fois. Elle m'engueulait pas, quoi. Elle était là à me dire, qu'est-ce qu'on va faire pour changer l'emploi du temps, pour mettre une autre béquille. Et en fait, j'ai surtout compris que, biologiquement parlant, personne n'est fait pareil. Et qu'il y en a qui vont fumer une cigarette et jamais plus refumer de leur vie, d'autres qui vont finir par fumer 3 paquets. Moi, je sais que j'ai une nature addictive, je l'ai vu avec le jeu. J'ai eu une addiction au jeu à 18 ans. Je l'ai vu avec l'alcool très vite, je l'ai vu avec la cocaïne, je le vois avec la cigarette. J'ai beaucoup de mal à me défaire de ces habitudes. Je me suis créée, j'arrête pas de répéter ce mot, mais c'est tellement ça, c'est ces fameuses béquilles dans la vie où on a l'impression que sans ça, on tient pas. Et ce qui a été extrêmement bénéfique et qui, pour moi, est salvateur aujourd'hui, c'est ça que j'essaye de propager, c'est qu'il a suffi de remplacer ces béquilles. En fait, on peut pas enlever des choses qui nous tiennent debout. Si on les enlève, on tombe. Mais si on met quelque chose à la place, vous enlevez une table et vous mettez un petit tabouret. Et en fait, on a remplacé petit à petit les choses et c'est devenu grisant. Vraiment, il y avait ce côté-là, un petit peu, j'étais ivre de ma sobriété. J'ai commencé à avoir des envies, à avoir vraiment une espèce de soif de connaître. J'arrêtais pas de vouloir apprendre des choses tout le temps. Alors je lisais quelque chose, je me disais, mais je ne sais rien là-dessus, il faut vite que je lise un autre bouquin. Au début, c'était la philo beaucoup, donc c'est Spinoza. J'ai découvert Spinoza comme ça, à 40 piges, et je voulais tout savoir. C'est comme à 22 ans quand j'ai découvert Janis Joplin. Voilà, quand d'un coup je deviens un petit peu obsessionnelle, ça a été Spinoza, ça a été la philosophie, ça a été Frédéric Lenoir, ça a été François Julien, et puis soudainement ça a été Marguerite Duras, parce que j'ai l'impression que grâce à elle, je comprenais mieux l'alcoolisme aussi et les dépendances, parce qu'elle dit quelque chose de magnifique. Elle dit l'alcool, c'est un vide vertige. On va tomber, on sent qu'on tombe et qu'il nous faut vite quelque chose pour remplir ce vide. Et elle dit que c'est quand on comprend qu'il n'y a pas de Dieu, par exemple, ce vide en fait au-dessus de nous. Et je pense que c'est ce qui m'arrivait aussi. Je pense que c'est en cherchant trop à comprendre des choses et qu'on s'aperçoit qu'on ne comprendra jamais rien, ça donne le vertige.
Vous arrivez là avec un album et un livre, donc qui fonctionnent ensemble. On peut dire que ce sont des confessions, quasiment, publiques. Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça fait partie d'un processus? Est-ce que vous aviez une appréhension? Et à partir de quand vous vous êtes dit, bah voilà, je vais parler de mon expérience. Et ça va être ça, en fait, mon livre. Ça va être ça, mon album, et mes chansons vont parler de ça.
Ça s'est fait un petit peu par étapes. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé faire un livre pour qu'il soit lu. J'écrivais seulement, donc j'écris sur un ordinateur. En plus, j'écris sur des textes édits, même pas du Word. Donc, c'est-à-dire, ça ressemblait vraiment pas à un travail d'écrivain. Mais en revanche, j'avais le début et j'avais la fin. Donc, quelque part, très vite, je me suis dit, je vais remplir le milieu et ça va peut-être donner un livre. La musique, pas du tout. J'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui a voulu faire un disque, donc Ipanema. Et ça m'a tout de suite confortée dans le fait que les chansons, je les avais dans le bon ordre ou dans le désordre. Enfin, c'était le tiercier gagnant. J'avais des chansons et je savais où elles allaient se placer. C'était vraiment un puzzle, finalement, à faire. Et ça a été hyper amusant du moment que je me suis dit, tiens, ça va être ça mon projet. Alors évidemment, je me suis dit, tiens, ça va être ça mon projet, du moment que j'avais déjà écrit pas mal de chansons et de pages de ce livre. Mais c'était aussi par opportunisme, j'avais rien d'autre à proposer aux gens. Je me disais, ça va être ça mon projet parce que c'est ça que je suis en train d'écrire. Donc, j'ai pas décidé que j'allais raconter toute cette histoire et d'un coup, je l'ai fait. J'ai commencé à le faire et je me suis dit, tiens, puisque c'est là. Et surtout, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, c'était, j'avais cette impression que ça pouvait aider les gens. Et je ne pensais pas du tout aux addictions, hein, parce que oui, les addictions, tout le monde en a. Elles vont de la nourriture à la drogue, à l'alcool, à la dépendance affective. Je sais que tout le monde vit ça, de toute façon. Mais c'était au-delà de ça, vraiment, je pense que moi, j'avais cette impression d'écrire un livre sur la dépression. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est la dépression qui pousse à la consommation. Et j'ai compris, en tout cas, que c'était quelque chose que tout le monde vivait.
Et vous avez commencé à écrire à partir de combien de temps après l'arrêt ? Des substances
Tout de suite. Tout de suite, en fait, j'ai retrouvé le début du livre avec mon fils qui se réveille et qui tombe sur cette soirée. Et j'avais écrit ce début de livre. En fait, je ne savais pas que c'était le début du livre, mais je l'avais écrit le lendemain de cette soirée. Donc, on était en 2015, quoi. Et quand j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à rechercher un peu tout ce que j'avais à retrier un peu. Et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, je vais continuer cette histoire.
Est-ce que la musique, aujourd'hui, occupe une autre place qu'avant ?
Franchement, ça serait malhonnête de dire oui. Je la fais d'une façon différente. Elle est moins torturée. Elle vient moins combler quelque chose ou chercher forcément à se nourrir de souffrance toujours, parce que j'avais vraiment cette impression qu'il fallait que je vive des choses pour écrire et composer. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression qu'il suffit de vivre tout court, puisque les choses, évidemment, puisqu'on vit, on vit des choses. L'expérience en soi, c'est ma seule richesse, donc j'en ai besoin, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vais vivre encore. Mais on peut se nourrir de tellement de choses, même parfois de souffrance encore, même si on n'est plus du tout dans l'addiction. Il y a des jours sans, comme tout le monde, et c'est enfin, beaucoup d'ailleurs, puisque pour arriver à l'addiction et la dépression, il faut avoir quand même cette base innée à l'insupportabilité de tout, hein, parce que je le sens. Je sens que c'est un boulot pour moi. C'est pas, j'ai pas découvert d'un coup la vie, j'ai pas vu la lumière. Hein.
Votre album commence par ces mots. Mon cauchemar, c'est celui de plein d'autres gens. Est-ce que vous recevez des témoignages depuis la sortie de votre album ?
Sans cesse. Mais alors, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais aider les gens et peut-être que certains auraient trouvé leur compte. Comme moi, parfois, je trouve des choses vraiment qui m'aident dans ma vie quotidienne, dans des livres que je lis. Mais moi, je ne contacte pas les gens pour leur dire. C'est très rare. Ou alors, grâce à des podcasts, justement, j'ai découvert La dernière fois, c'était un psychologue belge qui prône donc la pleine conscience, la méditation. J'ai découvert ça et puis j'étais obligée d'aller sur son Instagram et lui laisser un message. Parfois, ça vous fait tellement de bien que vous êtes obligée de le dire. Parce que quand on est obligé de le dire à quelqu'un, c'est qu'on veut, on lui est reconnaissant. Et je reçois des messages franchement hallucinants. Je vais les répertorier, je sais pas, je vais en faire un livre, mais un livre pour moi. Hein. C'est-à-dire que si j'ai un coup de mou, je regarde ce truc-là. Il y a des gens qui ont arrêté, des gens pour qui je suis le journal de bord. Alors je me dis, est-ce que je vais pouvoir tenir longtemps comme ça, parce que
ça demande beaucoup de force
aussi.
Oui,
Non, de temps, honnêtement, c'est pas de la force, mais ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien de voir que certaines personnes arrêtent et comprennent des choses et qui ont lu un livre que j'ai conseillé, qui ont compris ce que moi j'ai pu comprendre, parce que personne n'a le même chemin. C'est ça qui est merveilleux, de se dire que je donne des clés, c'était les miennes. Et de savoir que certaines clés peuvent être celles des autres, pour moi, c'est honnêtement la plus belle des récompenses. S'il y a deux personnes qui se sortent de cette merde, grâce à ce livre ou à cet album, honnêtement, j'ai l'impression que je vais au paradis, moi.
Mais en fait, ça change votre position d'artiste.
Pour les autres, je sais pas. Moi, je me sens, c'est vrai, je me sens au-delà.
Votre rôle ?
Ouais. Je me sens au-delà et puis j'ai l'impression que j'ai envie de faire ça. Je cherche une façon maintenant de continuer dans cette voie-là, mais sans prendre du tout la grosse tête ou prendre la parole. En tout cas, d'être à l'écoute de ceux qui en ont besoin et qui ont l'impression que je peux les aider. Du moment que eux, ils pensent que je peux les aider, c'est que je peux les aider. Moi, cette psychologue-là, elle était toute jeune, elle avait 25 ans, elle n'avait pas encore fait ses marques. Peut-être qu'elle a traité plein de patients avec qui ça n'a pas marché, parce que d'ailleurs, la personne qui m'avait donné son numéro aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Et moi, ça a marché. Et elle me dit à chaque fois, une seule patiente comme toi, ça suffit dans une vie, quoi. Elle me dit, si tu tiens, évidemment, hein, mais je veux dire, si jamais c'est grâce à moi que voilà, cette renaissance-là, moi, j'allais la voir pendant un an en lui disant « Je ne veux plus écrire, je ne veux plus chanter, je veux mourir. » tous les jours. « Je ne veux plus écrire, je ne veux plus chanter, je veux mourir. »
Vous avez des séquelles ou non ?
J'ai des séquelles d'avant tout ça, en fait. Elles ne sont peut-être pas encore soignées, je pense qu'il y a encore du boulot. Les séquelles, c'est ce pourquoi je me suis mis à consommer. Ça ne s'efface pas comme ça. Je pense qu'on a, en fait, toute notre vie, on essaye de garder une stabilité, d'être équilibré. Alors oui, il vaut mieux le faire et tendre à ça, mais tout en gardant en tête que c'est impossible à la base d'être égal à soi-même tout le temps. Et comme moi j'ai eu des parents comme ça, et je pense que c'est rarissime. Je pense que c'est pour moi une vision d'équilibre totalement erronée de la vie que j'ai.
Aujourd'hui, vous parlez publiquement de ces aléas, et vos parents disent quoi ?
Comme c'est des gens qui avaient beaucoup de tabous et qui ne comprennent pas qu'on aille mal... ça a été violent pour eux. Et puis, la honte aussi, je pense un peu. Ils avaient un petit peu honte du regard des gens. Mais finalement, mes parents, ils sont au-dessus de ça parce qu'ils ont une telle simplicité. Finalement, ils ne vivent pas dans le paraître. Donc, la honte, ce stade-là est passé très vite pour arriver à une fierté et une inquiétude aussi au quotidien aujourd'hui. Ils connaissent le monde des addictions comme on peut le voir à la télé ou même de la musique. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui font des cures, qui reviennent, qui repartent, qui viennent. C'est vrai que quand on voit aujourd'hui Mick Jagger ou... Il y a des gens qui me donnent envie de m'y remettre. C'est ça le pire. On a cette impression de loin qu'ils gèrent, que c'est rock'n'roll et qu'ils ont raison parce que de toute façon, fuck la vie, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vaut, on ne sait pas pourquoi on est là. Et il y a des moments comme ça où on se dit mais c'est vrai quoi. Et heureusement qu'il y a ce petit truc de lucidité aujourd'hui que je vous dis que j'ai. Ça sera pire après.
J'avais une question un peu idiote pour finir. Ça fait quoi une vedette qui arrive aux narcotiques anonymes ?
franchement, j'avais vraiment pas l'impression d'être une vedette quand je suis arrivée. J'avais honnêtement pas une seconde conscience qu'on pouvait me reconnaître parce que pour moi, j'étais morte. Mais j'étais morte en tant que Rose et j'étais morte en tant que Keren. Je ressemblais à rien. Je suis arrivée d'une nuit blanche. Et il se trouve que cette petite nana, elle me connaissait et qu'en plus, elle aimait ce que je faisais. Je me suis dit, je ne vais pas rester avec elle à travailler parce que je suis sûre qu'elle est un peu fan. C'est un peu bizarre. Mais franchement, je pense que peut-être elle a pris à cœur parce qu'elle aimait aussi, elle connaissait mes textes et qu'elle connaissait l'écorché vif que j'étais. Elle m'avait compris avant de me connaître. Donc ça, c'était assez fou de rencontrer quelqu'un qui avait écouté mes chansons. J'étais pas une vedette du tout et je pense que je l'ai été très très peu, un court espace de temps et je suis ravie de plus l'être. Le côté vedette aujourd'hui ne m'attire plus une seconde les fameuses paillettes.
Merci Rose.
C'est moi qui vous remercie.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Retrouvez en librairie et en streaming le livre et l'album de Rose qui s'intitule Kérosène. Cet épisode a été enregistré par Rémi des studios Ipanema et monté par Sidney Clazen. Interview Ariel Koenig, Merci à Lorraine Lott et Charlotte Sorel pour leur aide. Les déviations sont nées d'une idée originale de Laurence Velli. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook et toutes nos plateformes d'écoute habituelles. Parlez-en autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. À très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.